bonjour à tous, bienvenue sur notre antenne et c'est aujourd'hui exceptionnellement un lundi que nous retrouvons un moment pour la Terre, mais voilà, c'est exceptionnel puisque j'étais en congé et je reçois donc pour un moment pour la Terre, comme d'habitude, Martine Vallon, présidente de France Nature Environnement 04, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes venue avec Elisaveta Cunier, chargée de mission et d'animation de France Nature Environnement 04 et chargée également du projet L'Appel du Sol. Bonjour Elisaveta.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, c'est...
Oui, alors aujourd'hui, donc journée, enfin, ou émission sur un jour exceptionnel pour effectivement présenter l'action que nous menons et présenter la journée qui va avoir lieu mercredi 2 août, donc après-demain, sur la question des sols et sur cette action à laquelle participe France Nature Environnement et qui est appelée l'appel du sol en français ou People for Soil en anglais, donc qui est une campagne européenne, une pétition dans le cadre des ICE, des initiatives citoyennes européennes. Donc alors, je suis venue effectivement aujourd'hui avec Elisaveta, qui est chargée de mettre en œuvre sur notre département cette action à laquelle on participe. Dans un premier temps, donc, on va un petit peu vous rappeler ce dont il s'agit, l'appel du sol, pourquoi et comment ça se présente dans ce cadre législatif particulier. Et puis ensuite, Elisaveta fera plus de précisions, donnera plus de précisions sur les actions locales particulièrement et tout le partenariat qu'on a mis en place dans ce cadre-là avec le musée Gassendi. Avec aussi d'autres associations pour organiser cette journée du 2 août. Donc tout d'abord, France Nature Environnement fait partie des différentes ONG associations diverses qui se sont lancées dans cette initiative citoyenne européenne. Alors l'initiative citoyenne européenne, Lisa me coupera la parole quand je dirai des bêtises, c'est un moyen d'alerter le Parlement, la Commission européenne et le Parlement européen sur un problème que l'on pourrait voir surgir ou sur une question que l'on veut voir abordée sous l'axe d'une législation à mettre en place. Et donc, il n'existe pas aujourd'hui de législation bien cadrée sur la question de la protection du sol et sur la question de la préservation de cet élément essentiel à notre vie. Alors, c'est vrai que quand on dit sol, ça donne pas l'idée exacte de la façon dont, de l'acception qu'on en a dans ce cadre-là. Aujourd'hui, sol, pour nous, ça veut dire la terre vivante. Donc, ce n'est pas le parquet ni le carrelage sur lequel on pose les pieds tous les matins. Mais justement, la terre vivante, elle est en danger pour de multiples raisons qui sont à la fois la bétonisation, à la fois des pratiques agricoles qui destructrices, à la fois le manque de connaissances que nous avons d'une matière vivante et qu'il faut prendre avec soin peut-être, ou du moins regarder aujourd'hui d'une façon différente.
Je voudrais rajouter que même dans les grandes villes, on peut parler du problème d'artificialisation des sols. Ça veut dire que même les espaces verts ou les parcs ou les stades qui visuellement possèdent quand même une végétation, qui abritent une végétation, ce sont des espaces modifiés, des espaces changés, des écosystèmes modifiés par l'homme. Et du coup, ce ne sont plus les sols naturels. ce qui ne fonctionne plus comme les sols naturels qui font partie de notre environnement. Et ça, ça pose aussi des problèmes au niveau de la fertilité des sols, parce que du coup, vu que c'est un écosystème un peu artificiellement créé, urbain, du coup, il fonctionne différemment. Il n'a pas forcément tous les éléments d'un écosystème qui lui permet de rester en équilibre. Ce qui veut dire que cet écosystème peut se dégrader assez rapidement ou qu'il doit être tout le temps maintenu par nos soins en bon état ou en bonne santé.
Alors, au vu de cette situation et de la nécessité, enfin, qu'on a envisagé de faire mettre en place quelques éléments législatifs qui permettraient de protéger, qui permettraient, parce que en fait, en termes de réglementation, par exemple, en France, on a une réglementation qui concerne l'urbanisation en partie, donc on peut pas urbaniser n'importe comment, mais quand même, on continue quand même à bétonner beaucoup. Et de façon parfois irréfléchie ou sans envisager les questions d'infiltration d'eau, etc., qui pourraient se faire. Donc on a quelques articles dans le code rural ou dans le code de l'environnement, mais rien qui définisse un cadre spécifique pour le sol et à l'échelle européenne. Donc là, un certain nombre d'associations, Lisa va nous donner quelques-unes de ces associations plus ou moins importantes, se sont réunies pour lancer cette initiative et cette pétition qui est donc cadrée par la législation européenne. Il faut obtenir un certain nombre de signatures.
Pour l'initiative citoyenne européenne, il faut obtenir 1 million de signatures. Mais en fonction des accords, en fonction du dialogue des coordinateurs de cette pétition avec la Commission européenne, le dialogue peut s'ouvrir à un niveau inférieur des signatures. Par exemple, pour cette pétition, déjà à 200 000 signatures, on pourra commencer le dialogue avec la Commission européenne pour parler de cette législation pour les sols. Et en effet, comme Martine vient de dire, En France, il y a beaucoup d'associations qui ont voulu participer, mais non seulement les associations, aussi les instituts de recherche, également des agriculteurs ou des associations des agriculteurs. Par exemple, au niveau des associations, on peut citer l'association Terre de Liens, Terre et Humanis, Association française pour l'étude du sol. L'ensemble des associations et des fédérations de France Nature Environnement, donc les fédérations régionales, les fédérations départementales, la FRAPNA aussi.
Oui, on a aussi des toutes petites associations qui se sont comme Fruits d'Avenir, par exemple, ou bien des AMAP qui aussi se sont lancées. Donc l'idée, c'est d'obtenir le maximum de signatures possibles. L'action est dure depuis septembre l'année dernière, donc c'est la campagne de signatures est en cours.
Et elle est limitée au 31 août ?
Elle est limitée au
11 septembre.
Voilà. Donc, ça veut dire que, bon, là, on n'a pas encore comptabilisé exactement. On n'est pas sûr d'atteindre le niveau parce qu'un million de signatures, c'est vraiment... Alors, c'est sur 7 pays. À l'heure actuelle, combien de pays se sont engagés ? Enfin, tous les pays sont engagés.
Tous les pays de l'Union européenne ont dû s'engager et ont dû s'engager à un tel ou tel niveau. Donc, certains pays à un niveau de 1 000, 2 000 signatures. D'autres, comme la France ou l'Italie, au niveau de 55 000 signatures,
donc c'est pas rien.
Oui, mais on est loin du million de signatures. Alors le million de signatures, c'est sur tous les pays
sur
réunis.
L'ensemble, voilà, oui, c'est ça. Et le cadre législatif, c'est 1 million de signatures et il faut un minimum de 7 pays qui apportent ce million. Mais là, on a beaucoup plus on a une douzaine de pays, je crois, qui sont...
Oui, en effet, il y a au moins 12 ou 13 pays qui ont déjà des chiffres réels au niveau des signatures, dont l'Allemagne, la France et l'Italie sont en tête. Après, il y en a d'autres qui sont engagés, mais qui n'ont pas forcément pu mener leurs actions comme ils voulaient. Donc, par exemple, l'Angleterre, qui s'était engagée au niveau de 55 000 signatures, pour le moment, ils en sont à environ 2-3 000.
Ah oui.
Alors, c'est quand même... Enfin, alors, on n'a plus beaucoup de temps, donc il faut signer rapidement. Deuxièmement, c'est effectivement un processus qui est parfois un peu plus compliqué à mettre en place parce que, comme c'est dans le cadre d'une procédure bien particulière, il faut que les gens qui signent établissent la réalité de leur appartenance à l'Union européenne. Donc il faut avoir sa carte d'identité et mettre son numéro de carte d'identité pour pouvoir signer, ce qui veut dire que ce sont des légers freins. Bon, ça, on peut signer en ligne, mais les gens qui... Alors nous, on récupère aussi des signatures manuelles pour ceux qui...
Papier.
Et donc, notamment, après-demain, on aura tous les éléments pour prendre les signatures de ceux qui... ne savent pas, ne souhaitent pas ou n'ont pas le réflexe Internet.
Alors, papier, il n'y a pas besoin de carte d'identité.
Si, aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on relève, on relève en
aussi,
même temps,
aussi le numéro. Mais vous facilitez le fait de le faire vous-même.
C'est plus simple, voilà.
Et aussi, on peut expliquer directement aux gens comment ça se fait. Ils peuvent voir directement où on garde leurs données personnelles. Ils peuvent être sûrs de la confidentialité de leurs données personnelles. Après, les formulaires qu'ils remplissent, ce sont les formulaires officiels qui sont envoyés après à la Commission européenne. Il n'y a pas d'intermédiaire à part nous qui les remplissons. Donc les gens peuvent vraiment voir de leurs propres yeux comment sont traitées leurs données personnelles et où ça va et en quel but c'est utilisé. Donc je pense que ça doit être aussi rassurant et en même temps ça nous permet aussi d'échanger au sujet des sols, de leur fragilité, de leur pollution, dégradation. Et souvent, il y a des gens qui nous proposent quelques petites solutions, quelques petites idées ou qui partagent leur expérience, qui nous disent ce qu'ils font déjà réellement dans leur maison, dans leur jardin, et qui rejoint cette idée. Parce que quand on dit protection des sols, ça nous paraît une idée globale, quelque chose dont on est assez loin. Mais après, en parlant avec les gens, on peut voir réellement que chacun, dans sa propre vie, peut faire un petit quelque chose qui va finalement nous aider à préserver les sols.
Alors, par rapport à ces routes, toutes ces constructions, j'imagine que la nature s'adapte aussi. elle a cette force, puisqu'on voit bien que même les racines d'arbres, les plantes arrivent à pousser à travers le bitume. J'imagine qu'il y a aussi de nouvelles espèces qui... Non, rapport aux bestioles qui vivent sous terre.
Oui, alors des nouvelles espèces en termes de plantes ou en termes... disons que il peut y avoir une forme de résilience plus forte par l'intermédiaire de certaines espèces. Ceci étant, donc qui sont peut-être plus solides que d'autres et qui résistent mieux à la pollution. Mais aujourd'hui, parfois, on appelle ces espèces-là invasives parce que justement, elles perturbent le milieu des espèces autochtones, que ce soit en végétation ou en faune. Il y a aussi un moment où la résilience n'est plus possible et où effectivement un sol détruit met de très nombreuses années à se reconstituer. Et donc on arrive à avoir des terres qui sont stérilisées et sur lesquelles rien ne peut plus pousser si on n'apporte pas les éléments engrais et autres compensatoires nécessaires. Cela dit, donc la question de l'agriculture est en première ligne sur ces aspects-là, mais l'urbanisation et la mauvaise urbanisation ou l'urbanisation non réfléchie, le bétonnage et le goudronnage sans essayer de diminuer l'impact, agit beaucoup aussi. Il y a des possibilités parfois de réponses simples qui pourraient être faites. Quand on voit dans certains cas combien on arrive à bétonner jusqu'à la limite de l'arbre et où le trottoir ou le en serre carrément les arbres, on pourrait peut-être laisser un peu plus d'espace, aménager de façon à ce que l'eau qui tombe sur les côtés vienne bien irriguer l'arbre ou la plante, etc. Enfin, faire des pavés qui soient un peu éloignés les uns des autres, enfin, etc. Enfin, il y a de multitudes de possibilités aujourd'hui de récupération d'eau et de réirrigation qui font que la respiration de la terre pourrait se faire
quand même.
Donc voilà. Je crois que c'est à la fois, il y a les aspects, donc là, ce qu'on demande, c'est des questions de législation, mais la législation, finalement, elle vient juste répondre à une situation et essayer d'améliorer un certain nombre de fonctionnements qui sont pervers ou mal envisagés, parce que aussi, parfois, on n'a pas... Quand on construit une ville, on n'a pas forcément la vision de ce qu'elle va devenir. Ça se fait sans une réflexion suffisamment prédictive, je dirais, ou pas encore assez.
Nous allons reparler tout à l'heure de la formation des sols, des perturbations et des solutions. Mais en fait, juste pour répondre à votre question par rapport aux routes, est-ce que le sol peut s'adapter? Est-ce que d'autres espèces peuvent apparaître? En effet, la nature a des capacités de résilience qui sont énormes, qui sont vraiment impressionnantes. Par contre, juste pour visualiser, quand on fait une route, déjà, souvent, on a le tassement du sol qui se trouve en dessous, ce qui veut dire qu'au lieu d'être une éponge bien aérée, où il y a l'air, où il y a l'eau qui peuvent passer, ça se tasse. Et ni l'air ni l'eau ne peuvent plus y passer, ou beaucoup moins. Pour les animaux qui vivent dans les sols, qui creusent leurs tunnels, ça devient aussi beaucoup plus compliqué de le faire. Du coup, il y a beaucoup moins de biodiversité dans ces sols. Quand on fait une route par-dessus, on met de l'asphalte, du bitume, ça imperméabilise le sol. Donc, encore une fois, l'eau ne peut y rentrer, mais même l'oxygène, il ne peut, ou quasiment ne peut pas y rentrer. Ce qui fait que, avec les meilleures capacités de résilience, ça devient vraiment très compliqué d'assurer le fonctionnement de cet écosystème quand il n'y a pas d'air, quand il n'y a pas d'eau et quand il n'y a quasiment pas d'animaux. Voilà.
Alors, donc là, on va vous parler de tout ce qu'on met en place le 2 août, donc
mercredi,
mercredi, qui sont des éléments de pédagogie, j'allais dire. Donc, l'application qui est faite avec le musée et puis tous les ateliers qui vont avoir lieu, donc que Lisa va vous préciser. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est prévu, en fait, pour qu'on puisse, enfin, que le public prenne conscience de ce que ça veut dire le sol et aussi de ce que ça veut dire pour nous, parce que finalement, c'est bel et bien en terre que nous trouvons notre nourriture. Et donc, une terre vivante va pouvoir nous nourrir encore peut-être pas mal d'années ou de centaines d'années, mais si on tue tout ce qui est destiné à faire pousser notre nourriture, on va avoir beaucoup de soucis dans l'avenir. Alors, je ne sais pas si on fait une petite pause.
Une pause musicale très, très courte, voilà, juste pour aérer un peu.
Voilà, d'accord, pour aérer notre...
Allez, c'est parti, on se retrouve juste après.
C'est bon. Salsa Lama.
Bye. Pachamama.
Et voilà, on retrouve Un moment pour la Terre, cette émission spéciale sur l'appel du sol avec Elisabeth Cunier et Martine Vallon.
Maintenant, on voudrait parler un petit peu de notre journée de mercredi, du 2 août, pour présenter les activités, les animations que nous avons préparées. Il y aura, pendant toute la journée, il y aura pas mal de choses qui vont se passer dans le centre-ville de Digne, dans plusieurs endroits. Les deux pôles principaux, ce seront la médiathèque et le musée Gassendi. À la médiathèque, il y aura le stand de France Nature Environnement 04, avec un espace d'échange, un espace de partage, où les gens pourront venir voilà, pour partager avec nous leurs idées.
Et signer la pétition.
Évidemment. Et il y aura également le jeu, question pour un champion du développement durable, spécial sol. Donc toutes les questions qui sont liées d'une façon ou d'une autre au sol. Et les gens pourront tester un petit peu leurs connaissances, gagner des cadeaux. Et la médiathèque va mettre aussi à notre disposition, à l'entrée, un certain nombre de livres qui parlent des problèmes du sol ou qui parlent du sol lui-même, de sa formation, de son évolution, pour que si le public a envie d'apprendre un peu plus, pour qu'il puisse le faire directement à la médiathèque. En même temps, au musée Gassendi, donc pendant les horaires d'ouverture du musée, de 11h à 19h, il y aura aussi un espace forum sur les sols où il y aura toujours nos spécialistes qui vont être présents pour parler des problèmes qui intéressent les gens ou des solutions, parce qu'on parle souvent des problèmes.
Il y a des solutions.
Voilà. Donc, il y aura nos spécialistes. Il y aura aussi un micro-zoo. Donc, c'est une sorte de zoo, mais avec les petites bêtes des sols. Ce qui peut être intéressant pour les enfants, mais aussi bien pour les adultes, j'imagine, parce qu'on a rarement la possibilité de vraiment creuser le sol pour voir qui vit là-dedans. Ou il faut aussi trouver les sols en bonne santé pour avoir de la biodiversité. Mais c'est quand même important de savoir que si le sol est en bonne santé, si le sol est fertile, s'il fonctionne bien, dans une cuillère de ce sol, il y a plus d'organismes que d'êtres humains sur la Terre. Mmh. Organismes, micro-organismes, bactéries, virus, champignons. Mais voilà, pour vous donner une idée de la quantité et de la diversité de la vie qu'il y a dans le sol. Le musée Gassendi proposera aussi un atelier de frottage à l'Hermann Devries. Pour les enfants. Donc, on conseille de prévoir des vêtements usés.
Qu'est-ce qu'on appelle le frottage ?
Alors, Hermann Devries a créé des paysages et des tableaux pour nous montrer, pour refléter les paysages autour de Digne, en prenant des échantillons de terre, de roches, de sol, et juste en les frottant, en les utilisant comme pigments. Sans utiliser de couleur, de peinture, en utilisant juste l'éther pour créer cette couleur, pour créer quelque chose, un tableau, avec la couleur, la vraie couleur de la terre, la vraie couleur des roches. Et le musée Gassendi propose à chacun de se sentir un peu comme Hermann Devries, d'aller un petit peu explorer la nature et explorer voilà, les terres différentes, les sols, les roches différents, et voir quelle couleur ça peut donner si on veut faire un tableau, par exemple.
Et donc, sur l'aspect artistique, nous avons aussi un partenaire qui est une petite association qui s'appelle O'Neill, et donc la présidente, enfin, ou la principale administratrice, est peintre. Et donc, on pourra voir ces tableaux dans l'entrée de la médiathèque, Et aussi, alors là, c'est plus compliqué, Lisa, oui.
Là, je reprends la parole. Voilà. Il y aura, ces tableaux sont exposés pendant le mois de juillet et d'août dans les vitrines des commerces non occupés dans le centre-ville de Digne. C'est juste à côté de la rue de Lubac, mais ce n'est pas exactement dans la rue de Lubac. Alors, le premier endroit, c'est à côté des artisans du monde, en bas de la montée des prisons. Et le deuxième endroit, c'est l'ancienne boulangerie rue Capitoul, qui monte vers la place du marché, vers la cathédrale, pardon. Donc, en effet, on pourra voir cette exposition de Valérie. Alors, on peut déjà la voir.
Donc, il y a uniquement
deux lieux d'exposition. Deux lieux.
Et plus la médiathèque.
Plus la médiathèque. Et ensuite, il y aura donc à partir de ces tableaux a été organisé une. Un jeu, une.
Comment on parle tout ça ? Oui, un jeu de piste, une chasse au trésor. On a pris un des tableaux de Valérie, avec son accord bien évidemment. On a fait une sorte de puzzle à partir de ce tableau. Et il y aura les différents morceaux de ce tableau dans des commerces, dans des ateliers, peut-être dans un jardin, en centre-ville de Digne. Tout sur l'itinéraire du sol qu'on va créer entre le musée Gassendi et la médiathèque. Et on proposera aux gens de participer à cette chasse au trésor, de rentrer dans les petits commerces en centre-ville de Digne, de chercher ces morceaux de tableaux. S'ils en trouvent les six, évidemment, déjà, ils pourront garder ces morceaux, ils pourront garder ce tableau pour eux. Et aussi, dès qu'ils nous le font savoir, directement sur nos stands ou dans notre groupe Facebook, les 10 premières personnes qui vont reconstituer ce tableau pourront aussi gagner des cadeaux.
D'accord. Donc voilà, c'est à la base d'ateliers pédagogiques, de jeux de pistes, enfin, etc., pour effectivement sensibiliser tout le monde et puis faire participer à cette journée et à cette question de que faisons-nous et qu'allons-nous faire pour la vie de nos sols hein. Et donc, dans le cadre du partenariat avec le musée Gassendi, a été mise en place une application particulière aussi. Mmh. Donc là encore, je laisse la parole à Lisa parce que c'est encore plus compliqué pour moi.
En fait, aussi cette journée du 2 août, elle a été conçue pour valoriser ce contenu sur les sols pour l'application du musée que nous avons créée. Parce que pour faire savoir aux gens que ça existe, que c'est nouveau et qu'ils peuvent aller chercher quelque chose de nouveau dans l'application du musée. Le musée Gassendi a son application Gassendi Curiosity qui permet de faire une petite visite virtuelle du musée, des œuvres qui se trouvent dans le musée, mais également des œuvres qui se trouvent à l'extérieur. Et nous avons proposé au musée Gassendi d'y rajouter une partie scientifique sur les sols, en pensant avant tout à l'œuvre d'Herman De Vries, Musée des Terres, où, comme je viens de dire, il a fait une collection des échantillons de terres, de roches, de sols du monde entier, mais aussi des alentours de Digne, de la réserve géologique. Et lui, il a voulu montrer ses paysages en partant de la couleur, juste en partant de l'impression de cette couleur que les paysages nous donnent. Et nous avons eu cette idée de rajouter une explication scientifique pour dire on peut très bien admirer juste la couleur des paysages sans se poser la question pourquoi, mais de l'autre côté, on peut aussi expliquer qu'est-ce qui a fait qu'on a de telles couleurs, de tels paysages dans cet endroit précis, une telle végétation et de telles conditions
En fait, il y a là une forme de rencontre entre la question scientifique et la question artistique. Et on pourrait dire, bon, plus, enfin, si on regarde les choses sur un aspect très, très concret, la couleur d'un sol vient de sa composition et sa composition va entraîner des plantes différentes et donc une vision d'un paysage aussi différent. Et donc ces plantes différentes vont entraîner aussi une faune qui va être différente aussi. C'est-à-dire qu'on a finalement, à partir d'éléments... d'éléments de base et de composition chimique qui varient, on finit par avoir une évolution et un milieu, un environnement et une faune et un habitat complètement diversifié, complètement varié. Et donc, ce qui est fantastique dans ce partenariat et dans cette action, c'est qu'effectivement on rencontre là un artiste qui a fait le tour de la terre pour aller ramasser des petits échantillons de terre un peu partout, qu'il a rassemblé, qu'il a ramené. Il y a une collection dans le musée Gassendi, une collection fabuleuse de poignées de terre qui viennent du monde entier. Et donc, ça a été fait sous un axe esthétique, artistique. Mais en même temps, je crois que symboliquement, il est allé à la rencontre de peuples différents. Il est allé à la rencontre de pays très différents et il a prélevé un petit peu, qu'il a ramené ici à Digne. Et je crois que c'est... Pour moi, ça fait partie de la poésie de cette exposition et de cette création et de cette journée aussi.
Martine vient d'aborder deux sujets qui sont très intéressants, à mon avis. Le premier, c'est en effet, souvent, il faut le dire, on accuse les scientifiques d'être trop scientifiques et de parler de façon à... De façon que les gens qui n'ont pas fait les mêmes études n'arrivent pas à le comprendre. Notre but, d'un côté, c'était en faisant ce parcours numérique dans l'application, c'était de parler d'une langue qui est simple, qui est basique, que nous utilisons tous, mais en même temps d'expliquer quand même les choses importantes pour que ce soit vraiment à la portée de tous, pour qu'on puisse tous comprendre ce qui se passe et comment ça se fait. Et en même temps, comprendre des choses scientifiques, mais à partir de notre perception, peut-être un peu sensuelle, un peu imaginaire. Donc ne pas partir purement sur quelque chose de scientifique qui paraît souvent réservé pour les chercheurs. Et de l'autre côté aussi, Martine a abordé ce sujet, on parle souvent du sol sans vraiment mettre du sens dans ce mot. On peut dire sol, on peut dire terre, on ne va pas vraiment faire la différence, terre, roche, ça peut rester la même chose dans notre tête. Et je pense que là, l'intérêt, ce sera aussi de bien expliquer où est la différence. Où passe la frontière entre le sol, les roches, qu'est-ce qu'on appelle les terres, qu'est-ce que Herman de Vries va appeler les terres dans son œuvre, et d'expliquer aussi quelle partie on vise dans cette pétition, quelle partie on veut protéger et pourquoi, donc à cause de la richesse, de la biodiversité et de tous les services aussi que les sols peuvent nous rendre.
Donc, à partir de là, effectivement, on a ajouté ces petits textes dans l'application du musée. Et je dois dire que ça n'a pas été très simple. Ça n'a pas été très simple parce qu'il fallait condenser certaines questions ou certaines réponses en un minimum de mots qui rentrent dans l'application et que nos différents experts administrateurs de France Nature Environnement qui se sont attelés à l'écriture des textes avaient vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire à chaque fois. Et la difficulté a été d'une part, de simplifier un peu le vocabulaire et de ne pas utiliser de termes trop techniques de façon à être suffisamment pédagogique et compris par tout le monde et abordable. Et d'autre part, d'arriver effectivement à être assez succinct pour pouvoir rentrer sur le système d'une application qu'on regarde sur son téléphone et qui donc nécessite de ne pas faire 500 pages. Peut-être l'exemple d'un des textes, je ne sais pas, qui a été donné. Je vais vous en lire un, peut-être on a le temps pour ça. Donc, par exemple, pourquoi n'y a-t-il pas de sol sur la Lune ? Donc, le volcanisme intense des premiers âges de la Terre a réparti en couches concentriques la chaleur originelle. Enfermée dans les profondeurs de notre planète, la température a baissé sur la surface stérile, ameublie par les pluies et l'érosion, et notre planète est devenue habitable. Donc, dans un premier temps, effectivement, la pluie, l'érosion fait qu'il y a un démarrage de quelque chose. La vie apparue au fond des océans a pu enfin coloniser les milieux terrestres et s'installer sur la lave riche en minéraux, sous une atmosphère qui était aussi devenue favorable. Les premiers êtres vivants ont prélevé de la matière sur cette roche qui s'est encore dégradée et lentement transformée en sol. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers êtres vivants, ce sont des sortes de lichens qui arrivent à déstructurer les roches et qui font le premier pas de l'évolution de la roche en terre et en sol. Ces sols, formés par les premiers êtres vivants terrestres, se sont diversifiés. La réussite a été totale et les chaînes alimentaires qui débutent presque toutes par des végétaux sont tributaires des sols. Le sol vivant de la Terre est la symbiose de l'organique et du minéral. Quand il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sol, ce qui est le cas sur la Lune. Donc, et c'est là où, effectivement, l'enjeu de l'histoire de la préservation des sols apparaît bien. C'est que si on tue la vie qui existe dans le sol, on va finir sur une terre lunaire et on aura bien du mal à y vivre.
Tout à fait. En fait, là, il est quand même important de préciser que pour que le sol se forme, il faut vraiment beaucoup de temps, donc les sols ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine. Ça veut dire que si on dégrade les sols, si les sols, à cause de l'érosion, à cause de la perte de leur fertilité, à cause de l'artificialisation, si on perd les sols fertiles, après pour les reconstituer, il nous faudra au moins des centaines d'années, enfin, il faudra attendre au moins des centaines d'années, voire même des milliers d'années, pour avoir des sols capable de nous fournir les mêmes services qu'ils nous fournissent maintenant. Comme Martine vient de le dire, tous ces processus sont très très lents, donc ça commence par des petits champignons, par des lichens qui peuvent, eux, se nourrir directement des roches. Après, au fur et à mesure, quand ces organismes meurent, ça crée un petit peu de matière organique, donc c'est le début du sol. Après, plus il y a de matière organique, plus d'autres plantes peuvent venir s'installer là-bas. Donc, c'est vraiment c'est très, très long. Ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup plus pratique et utile pour nous de préserver les sols que nous avons déjà ou d'essayer de peut-être de faire des petits rapports de matière organique pour que ça reste des sols en bonne santé. Que de les user aujourd'hui et de se dire « Ah bah après, on va attendre quelques centaines d'années pour que ça se reconstitue.
» Et oui, et donc aussi avec la réalité qui est que notre nourriture vient de là et qu'on ne peut pas... On ne peut pas imaginer, même si des expérimentations aujourd'hui sont faites de toutes sortes de cultures hors sol, et on ne peut pas imaginer que cela puisse être suffisant pour nourrir tout le monde
à long terme. Les données sont telles que 95% de notre alimentation aujourd'hui vient du sol.
Donc, d'où l'importance
en effet, de
préserver notre sol pour pouvoir survivre sur ce monde.
Aussi, ouais. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie des médicaments, ça vient aussi du sol, avec des champignons ou peut-être quelques bactéries qui vivent dans le sol. On a réussi à les utiliser ou à extraire certaines substances pour nous soigner. Et il y a une grande partie des médicaments qui sont basés sur cette vie qu'il y a dans les sols.
Et en même temps, c'est à double tranchant, puisque ces médicaments ne sont pas non plus biodégradables.
Dans certains cas.
On les retrouve aussi comme pollution.
Tout à fait.
Bon.
Donc, je crois qu'on peut donner rendez-vous mercredi
2 août
pour continuer avec tous ceux qui le souhaitent.
Alors, à partir de quelle heure?
À partir de 10h à la médiathèque, pour nous rencontrer sur le stand et faire le jeu questions pour un champion et puis démarrer les chasses au trésor. Et ensuite, c'est à 11h au musée Gassendi, bien sûr, au moment de l'ouverture du musée. Donc là où il y aura les ateliers, la vision, donc le micro-zoo, une coupe de sol normalement, enfin où on verra un peu comment c'est constitué, et puis les visites guidées.
Alors, je voudrais juste préciser les horaires pour les visites commentées de l'appel du sol entre art et science. Ce sera à 11h et à 16h au musée Gassendi. Et ces visites vont se dérouler avec un spécialiste de notre association et une médiatrice du musée pour donner cette double vision des sols. À la médiathèque, à 11h30 et à 14h30, Valérie Néron va proposer des balades artistiques pour présenter son exposition.
Merci, merci Elisabetta, c'est le moment de rendre l'antenne. À mercredi, très bonne journée à tous, au revoir.
Merci beaucoup,
au revoir.